Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal Babel Pongo Masimango.
Accueil des migrants expulsés des États-Unis. Le gouvernement appelle au calme face aux inquiétudes qui circulent. Lors d'un briefing lundi, son porte-parole affirme que des contrôles sont régulièrement faits et des discussions sont en cours avec leur pays d'origine pour leur retour. Éducation nationale. Le gouvernement vient de lancer un segment politique dit de haut niveau pour mobiliser l'ensemble des acteurs du secteur autour des priorités éducatives du pays. Cela en vue d'améliorer la qualité de l'enseignement et adapter la formation aux réalités du marché de l'emploi. L'adoption lundi par l'Assemblée nationale des projets de loi autorisant la ratification des accords de Washington. Le sujet a été débattu hier dans Dialogue entre Congolais. Vous suivez ce qu'en disent les intervenants. Madame, Monsieur, bonjour. Le gouvernement appelle la population au calme et à la responsabilité sur la question des migrants. Lors d'un briefing lundi à la RTNC, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement, demande d'éviter les rumeurs et les messages qui font peur. Il explique que les étrangers concernés sont en RDC légalement pour une période limitée et sous contrôle. Il affirme d'ailleurs que des contrôles sont faits régulièrement et des discussions sont en cours avec leur pays d'origine pour organiser leur retour au moment prévu. Sur les réseaux sociaux, il appelle à faire attention aux fausses informations et à éviter les messages haineux tout en respectant la liberté d'expression. Patrick Muyaya, ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, au micro de Blaise Chindani Kambala.
Les ressortissants de pays tiers qui sont arrivés ont des titres de séjour qui sont réguliers. Et d'ailleurs, à travers les organisations internationales qui collaborent avec le gouvernement dans ces processus, il y a déjà des contacts avec leurs pays respectifs. Peut-être que dans les prochains jours, dès que ces contacts auront abouti, on pourra vous informer que certains en ont pu trouver un compromis pour qu'ils retournent dans leur pays d'origine. Parce que comme nous le disons, dès le départ, c'est un séjour temporaire. Sur la question des Afghans, évidemment, j'ai été appelé plusieurs fois par des médias internationaux qui sont intéressés. Je crois que le principe que nous avons adopté en termes de transparence, s'il y a des éléments qui vont dans ce sens, nous serons en mesure de venir les confirmer pour que les uns et les autres puissent être informés. Ici, je tiens à rappeler qu'il faut éviter de s'aimer la peur dans notre opinion. C'est une opération qui est encadrée dans le temps et les dispositions sont prises pour que toutes les personnes qui arrivent ici, nous avons l'occasion à travers le service du ministère de l'Intérieur de faire ce qu'on appelle vetting et pour nous assurer qu'il ne pose pas des problèmes de sécurité dans cet environnement.
Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement. En Ituri, 11 ressortissants chinois et 3 congolais ont été arrêtés par les services de sécurité lundi à Nizi, 35 km au nord de Bunia, dans le territoire de Djougou. Ils sont accusés d'exploiter illégalement des minerais dans plusieurs sites miniers de cette entité. Le gouverneur de province demande aux services compétents d'assainir ce secteur afin que les ressources minières profitent à la province. Marcel Kizabiamungu.
L'arrestation de 11 Chinois et de 3 Congolais est les résultats d'une mission d'enquête effectuée dans la zone minière d'Enizi par une équipe mixte des services provinciaux spécialisés dans ce secteur. Selon les enquêteurs, ces exploitants illégaux de minerais effectuaient leurs activités aurifères dans plusieurs sites miniers sans autorisation officielle tout en détruisant l'environnement depuis 2024 dans les territoires de Djougou. Pour les gouverneurs des provinces, cette pratique qui contribue à l'enrichissement des groupes armés et au pillage des richesses de la RDC doit cesser. Le général Johnny Luboya Kachama demande aux services compétents d'approfondir les enquêtes pour le démantèlement de tous les réseaux mafieux qui opèrent dans ce secteur.
Il faut que ça cesse et je demande encore à notre justice de faire des investigations jusqu'au bout, que ce soit pour Arou et pour la situation de Nizi. Je vais suivre ces deux dossiers jusqu'au bout pour qu'au moins ça soit un exemple.
La société civile locale encourage les autorités à aller jusqu'au bout pour assainir ces secteurs pour que les ressources minières de l'Ituri profitent à la reconstruction et au développement de la province. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Restons en Ituri. Toutes les maisons de commerce sont restées fermées depuis samedi au centre commercial d'Ariwara dans le territoire d'Arou. C'est environ 260 km au nord de Bounia. Les opérateurs économiques protestent contre le regain de criminalité à Arou et Ariwara, marqué par des vols à main armée et des tueries perpétrées par des individus non autrement identifiés. Dans un mémorandum adressé lundi aux autorités, les forces vives de la région exigent l'ouverture d'enquêtes pour retrouver les auteurs de ces actes. Elles demandent aussi le remplacement de certains agents des services publics jugés défaillants. Isaac Raymond.
Des dizaines de cas de banditisme, parfois suivis de meurtres, sont enregistrés depuis novembre 2025. Des hommes armés s'introduisent dans des domiciles et des commerces, emportant d'importantes sommes d'argent. Le 18 mars dernier, à Arou, près de 82 000 $ ont été volés lors d'un cambriolage. Trois personnes, dont des policiers et un chauffeur, sont déjà tuées. Et jusqu'à présent, aucun suspect n'a été arrêté, déclarent les forces vives. Elles demandent notamment l'ouverture d'enquêtes et le remplacement de certains agents de services de sécurité accusés de défaillance. Un notable de la région, Sami Azabou.
Les sécurités battent à tel niveau que vous ne pouvez pas dormir. Mais on n'a jamais appréhendé un seul élément. Ça gêne. Que font les services de sécurité dans le territoire de Arou? On demande de relever les autorités sécuritaires pourvu que règne la paix à Arou et à Riwara. Parce qu'il n'y a pas la paix.
Face à cette insécurité persistante qui cible les commerçants, ces derniers ont décidé de suspendre leurs activités jusqu'à nouvel ordre. Robert Amassi.
Nous demandons à toutes nos autorités de la province ainsi que du territoire de nous sécuriser. Ça fait vraiment baisser l'économie des milliers. Déjà, on peut fermer même à valeur.
Certains jeunes ont mis en place des patrouilles nocturnes, notamment dans la cité d'Arou, afin de dissuader les bandits armés. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Le gouvernement, à travers le ministère de l'Éducation nationale, a procédé hier mardi au lancement d'un segment politique dit de haut niveau, marquant un engagement national fort en faveur de l'éducation et de la formation. Cette initiative vise à mobiliser l'ensemble des acteurs, autorités publiques, partenaires techniques et financiers, ainsi que la société civile, autour des priorités éducatives du pays. L'objectif est d'améliorer la qualité de l'enseignement, renforcer l'accès équitable à l'éducation et adapter la formation aux réalités du marché de l'emploi. Des précisions avec Blaise Chindani Kambala.
Prenant la parole à cette occasion, la première ministre a souligné que l'éducation constitue un pilier essentiel du développement durable. Elle a également insisté sur la nécessité d'investir davantage dans la formation des jeunes afin de bâtir une société plus compétente et compétitive.
Dans ce contexte, chaque franc congolais investi doit produire un impact réel. La question qui nous réunit aujourd'hui est donc une question de responsabilité collective. Comment financer durablement un système éducatif inclusif de qualité capable de répondre aux ambitions de la République démocratique du Congo.
De son côté, la ministre de l'Éducation nationale et de la Nouvelle Citoyenneté a appelé à un engagement effectif et collectif pour élever les défis du secteur, notamment les manques d'infrastructures, la formation des enseignants et l'accès des filles à l'éducation. Raissa Malou Dinanga.
Une nation ne prépare pas son avenir seulement par les intentions qu'elle proclame. Elle le prépare par les choix qu'elle assume pour son école, pour ses enseignants et pour sa jeunesse. C'est le sens de ce segment politique de haut niveau consacré au financement durable de l'éducation et de la formation en République démocratique du Congo. Ce segment politique ne doit pas ajouter des constats aux constats. Il doit nous aider à décider ce que nous consolidons, ce que nous réformons, ce que nous finançons en priorité et ce que nous portons à l'échelle nationale.
Ce lancement marque ainsi une étape importante vers la mise en œuvre de politiques éducatives inclusives et efficaces au bénéfice de toute la nation.
Et hier mardi, l'inspecteur général à l'Éducation nationale a appelé les inspecteurs scolaires à privilégier des performances axées sur les résultats. Cet appel lancé à Kinshasa intervient dans le cadre de leur mission de supervision à travers les différentes provinces éducationnelles à l'approche de la partie hors session de l'examen d'État 2026. Hubert Kimbonza s'est exprimé lors d'une réunion des préparations avec les inspecteurs en missionnaire. À cette occasion, il a insisté sur la nécessité de veiller scrupuleusement au respect de la réglementation, notamment en ce qui concerne la fixation des frais scolaires, en particulier dans les chefs-lieux des provinces. Hubert Kimbonza, au micro de Blaise Ndongala.
Ça a été une occasion pour nous pour dire que les missionnaires, surtout ceux qui vont arriver au niveau des chefs liés, ont pour mission aussi d'échanger avec leurs excellences, les gouverneurs de province, pour que nous n'ayons pas des écarts si grands entre les frais que la Mineta fixe et ceux que est fixe. Ça met tout le monde mal à l'aise et le niveau national est chaque fois vilipendé pour rien. Nous avons aussi insisté sur les rôles exacts de missionnaires. C'est lui d'être tous les jours dans des centres, mais aussi d'évaluer jour après jour leurs actions. Voilà, ce sont les grandes lignes qui ont fait que nous puissions venir rapidement dire aux missionnaires déjà, qui commencent à partir dès aujourd'hui, parce que nous avons des provinces ou des centres ou encore des axes qui sont derrière nous. Certains seront sur terrain. Ils vont aller avec le même objectif pour que cette fois-ci, chaque jour, qu'on ait un changement de manière positive dans le travail des superviseurs.
Sachez que la partie hors session de la 59e édition de l'examen d'État débutera lundi et en prochain le 4 mai sur toute l'étendue du territoire national. Dans ce journal aussi, cette mise au point du gouverneur de la Banque centrale du Congo, André Wameso, dément fermement toute suppression du dollar américain en RDC à l'horizon 2027. Il dit avoir plutôt évoqué la mise en place de mécanismes numériques visant à encadrer l'usage du billet vert. Il a balayé ces rumeurs lors d'un briefing co-animé avec le ministre de la Communication et des Médias hier mardi à la télévision publique RTNC. Par ailleurs, le gouverneur de la Banque centrale met en avant une amélioration du pouvoir d'achat en francs congolais. Il invite à consolider la confiance dans la monnaie nationale dans un contexte qu'il considère marqué par une inflation maîtrisée, une stabilité du taux de change et une croissance soutenue. André Wameso, gouverneur de la Banque centrale du Congo, est au micro de Blaise Chindani.
Les transactions en dollars vont continuer à pouvoir exister. Il faut faire un distinguo entre payer, faire ces transactions en cash et dénouer ces transactions. Ça ne sera pas un délit d'abord que les gens puissent détenir des dollars. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas détenir des dollars au sein de votre économie. Si on pourra les détenir, seulement quand on voudra faire une transaction, si vous avez des dollars, vous serez dans l'obligation de pouvoir convertir vos dollars en francs congolais pour pouvoir acheter un produit. Ou bien, vous prenez vos dollars, vous les mettez sur votre compte en dollars qui ne sera pas fermé. Et à ce moment-là, vous pourrez faire votre transaction soit via carte bancaire ou bien via virement. Donc, qu'on ne fasse pas d'amalgame, il n'y aura pas d'interdiction de transaction en dollars. Il y aura tout simplement une obligation de pouvoir réaliser ces transactions en dollars par la monnaie scripturale, c'est-à-dire monnaie électronique, monnaie digitale, enfin digitalisation, virement bancaire et j'en passe.
Le gouverneur de la Banque centrale du Congo. Penchons-nous à présent sur cette triste réalité à Kinshasa. Le transport en commun change de prix tous les jours. Entre spéculation et loi des embouteillages, sortir et revenir devient de plus en plus éprouvant. Des tarifs qui doublent, voire triplent en l'espace de quelques minutes. Ajoutez à cela la rareté de bus et le contrôle des documents de véhicules initiés par l'hôtel de ville de Kinshasa toujours en cours. Cette situation traumatise la population. Daniela Awa signe ce reportage.
Nous sommes à l'arrêt Kintambo magasin. L'ambiance est tendue. Ici, pour rejoindre l'UPEN, le tarif matinal de 1000 francs ou 1500 francs n'est plus qu'un lointain souvenir. Dès que le soleil commence à se coucher, le chauffeur impose leur loi. C'est 3000 francs, voire 4000 francs ou plus avant de monter à bord du véhicule. Ce système de tarification qui pèse sur le porte-monnaie de la population pénalise son quotidien. Le receveur crie un prix, la foule proteste, mais finit par céder, épuisé par la fatigue. Trouvé à l'arrêt des bus, une dame exprime son désarroi.
Nos chauffeurs jouent avec la température du pays. Dès qu'il pleut, ils augmentent le prix du transport. Ils vont te demander de l'argent avant de monter à bord. Dès que tu donnes, lorsqu'ils rencontrent des embouteillages, l'heure avance. Tu es obligé de descendre pour prendre la moto. Mais tu as déjà payé. Ils ne vont pas te rembourser. Il faut encore débourser de l'argent pour arriver.
Pour les chauffeurs, ce n'est pas de la spéculation, mais une adaptation forcée à la réalité du terrain.
Nous aussi, nous profitons lors des embouteillages. Nous demandons l'argent avant de monter à bord pour empêcher aux hommes en uniforme de monter sans payer.
Face à cette situation persistante, le trajet d'aller et retour vers la maison reste pour beaucoup des Kinois le moment le plus stressant et le plus coûteux de la journée.
Restons à Kinshasa, dans la commune de Limété. La route des poids lourds est confrontée à un sérieux problème de bouchage de caniveaux. Cette situation est à l'origine de fréquentes inondations qui accélèrent la dégradation de cet axe stratégique. Cette problématique perturbe la circulation et inquiète les usagers, surtout en cette période de pluie. Christophe Ngandou nous en dit plus.
La route poids lourd qui relie la gare centrale au boulevard Lumumba constitue un axe stratégique pour la ville de Kinshasa. Elle dessert notamment plusieurs ports fluviaux, des usines et des zones industrielles. Malgré son importance capitale, cette route fait face à un sérieux problème de bouchage des caniveaux des parts et d'autres. Ajoutez à cela des ordures abandonnées sur la chaussée. À chaque pluie, ces déchets sont entraînés dans les caniveaux, provoquant les inondations récurrentes et accélérant la dégradation de la chaussée. Face à cette situation, les riverains lancent un message message appelant à un tirage régulier des caniveaux et à l'évacuation rapide des ordures pour éviter la détérioration avancée de cet axe vital.
Il y a des inondations parce que les caniveaux sont bouchés. Nous demandons aux autorités de curer régulièrement les caniveaux et d'évacuer rapidement les ordures.
De son côté, un agent des services d'assainissement de l'hôtel des villes de Kinshasa, rencontré sur place, explique que les retards dans les tirages des caniveaux est notamment dû au non-paiement des agents et à l'insuffisance des enjeux de travail.
Nous travaillons pour les comptes de l'hôtel des villes. Si les agents sont bien payés et si les moyens sont disponibles, le travail peut se faire normalement.
Une situation qui appelle à une implication urgente des autorités compétentes pour assurer les tirages permanents des caniveaux afin de préserver cette route stratégique.
Actualité internationale.
La présidence tunisienne a annoncé hier mardi le limogeage sans explication de la ministre de l'Industrie et de l'Énergie, Fatma Tabe Echiboub. Cette éviction intervient alors que 5 projets de loi déjà approuvés par le gouvernement et soumis au vote parlementaire suscitent une vive polémique. Il prévoit l'octroi de concessions à des entreprises étrangères pour l'installation et l'exploitation des centrales solaires avec des contrats pouvant atteindre 20 ans assortis d'exonération fiscale durant les 5 premières années.
L'invité.
L'Assemblée nationale a adopté lundi des projets de loi autorisant la ratification des accords de Washington. Ces textes portent à la fois sur un accord de paix avec le Rwanda et sur un partenariat stratégique conclu avec les États-Unis dans des secteurs jugés et prioritaires. Cette thématique a suscité un débat entre les intervenants dans l'émission Dialogue entre Congolais d'hier mardi. Je vous propose de les écouter au micro de Guy Maté.
Patrick Matata Makalamba, vous êtes professeur, vous êtes député national élu de la ville de Kisangani dans la province de la Tchopo. Vous êtes également cadre de l'IDPS, parti membre de l'Union sacrée de la Nation. Vous venez d'adopter, n'est-ce pas, ces accords de Washington. Quel est votre état d'esprit après l'adoption de ces textes?
Il est ici question d'un aboutissement de ce processus de diplomatie dans lequel s'est résolument engagé Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, notre président de la République, chef de l'État. Parce qu'il a constaté que le problème que nous avions ici d'insécurité, des guerres, n'avait pas nécessairement des causes nationales. Il fallait également intégrer l'aspect international à travers ces accords. D'abord, l'accord de paix RDC-Rwanda, on montre clairement que le problème que nous avons, c'est un problème d'agression, un problème de guerre entre deux pays. Ça, c'est clair. Et cet accord permet également d'avancer avec le processus de paix, qu'on entre dans un autre processus de coopération pour le développement. On ajoute un accord de partenariat stratégique avec un État aussi puissant que les États-Unis. Ça fait un package global qui permet d'atteindre nos propres objectifs de développement tout en contribuant à ce que les autres pays avec lesquels nous interagissons atteignent également les leurs.
Il a dit que les députés ont validé sans modification ni débat de fond ces accords. Cela veut dire que vous avez adopté des textes dont vous ne connaissez pas les contenus, honorable?
Je pense que ce n'est pas juste de les dire ainsi. L'Assemblée nationale dispose des groupes techniques de travail. Et pour bien analyser ces dossiers, on a mobilisé 3 commissions permanentes. C'est dans les travaux au sein de la commission et ces travaux d'analyse pointue, approfondie, ça a pris pas moins d'une semaine. Donc les députés membres de la commission, les députés non membres de la commission, les membres du gouvernement et tous les autres experts sont appelés à participer aux travaux de la commission. Donc c'est à ce niveau-là que le débat s'est fait. Et lorsqu'on vient, on vient maintenant à l'Assemblée plénière pour soumettre le rapport, il est que normal que l'Assemblée puisse faire confiance au travail d'experts qui a été exécuté au niveau des 3 commissions permanentes.
Et vous n'avez pas auditionné ces rapports de cette commission?
Ces rapports étaient auditionnés, c'est leur adoption qui vaut effectivement vote de la loi.
Merci. Augustin Bissimois, vous êtes secrétaire général du mouvement d'élite pour la démocratie et le vrai changement, MDVC en sigle, les partis de l'opposition extra-parlementaire. Et comment vous réagissez à l'adoption par l'Assemblée nationale des accords de Washington?
Nous avons suivi religieusement comment est-ce qu'on a adopté, n'est-ce pas, ces accords, et nous avons été déçus de constater que ça a été adopté, et cela sans débat. Et donc, nous avions déjà une connaissance que ça devrait être ratifié, d'autant plus que l'Assemblée nationale est composée à 90% Union sacrée, et que désormais nous sommes dans une situation, lorsque le roi soleil a parlé, tout le monde doit se courber. rien ne nous a surpris. Mais ce qui nous a choqué, c'est que on ne peut pas comprendre que les accords comme ceci puissent passer comme si c'était de la lettre à la poste. Il y aurait quand même un débat que les représentants de la population puissent quand même poser certaines questions par rapport à cela. Parce qu'il y a des questions que la population se pose par rapport à ces accords. Et lorsque les représentants de la population ne peuvent pas poser ces questions que leurs électeurs se posent, ça devient un problème. Parce que vous lui avez posé des questions par rapport à la cogestion. Il a semblé dire que bon, on ne peut pas empêcher une cogestion pour promouvoir le développement au niveau de la région. Mais nous, nous posons des questions. D'où vient que ce soit nos richesses qui viennent aujourd'hui contribuer au développement de la région?
Merci, Itiel Batoumike, analyste politique à Ebouteli, l'Institut congolais de recherche sur la politique et la violence en RDC. Quelle est votre lecture de l'adoption par l'Assemblée nationale des accords de Washington?
Cette ratification, l'adoption des accords par le Parlement, l'Assemblée nationale, n'était pas d'un enjeu majeur aujourd'hui, parce que lorsqu'on regarde les temps écoulés entre la signature de ces accords et leur approbation par les deux chefs d'État en décembre dernier, on peut vraiment se rendre compte qu'il y avait plus d'enjeux parce que l'accord était ou les accords sont déjà en train d'être exécutés depuis plusieurs mois et que finalement ce n'était qu'une simple formalité que l'Assemblée nationale était appelée à remplir. Il n'y a pas eu un débat de fond comme on pouvait l'espérer au regard des espoirs suscités par cet accord.
Vous pouvez continuer de suivre Dialogue entre Congolais sur www.radiookapi.net et sur toutes les plateformes numériques de Radio Okapi. Merci de l'attention accordée à ce journal. Jude Mister Bilanda l'a préparé. La mise en onde est signée Jean-Claude Onciala. Bonne journée à toutes et à tous.